Bonjour, nous sommes les CM2A de l'école Joliot-Curia. Aujourd'hui, nous allons interviewer Sarah Trids. Après avoir vu son exposition au Crédac, J'aime le rose pâle et les femmes ingrates, nous allons lui poser des questions.
Bonjour, alors j'ai 39 ans et après avoir passé mon bac, j'ai été faire mes études à l'école des Beaux-Arts à Lyon. Et c'est là où j'ai eu envie de devenir artiste. Maintenant, ça fait environ 15 ans que je fais des expositions un peu partout en France, parfois à l'étranger. Et j'ai une pratique de la sculpture, de la peinture et du dessin.
Pourquoi avoir choisi le métier d'artiste ?
Quand j'étais enfant, dès l'âge de 7 ans, en fait, je prenais des cours de dessin et des cours de poterie à côté de l'école. Et j'adorais ces cours-là et j'aimais beaucoup aussi offrir ce que je faisais à mes amis. Je leur offrais des petites sculptures en céramique et puis aussi des dessins. Et ensuite, quand j'étais au lycée, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une option art plastique. Ça veut dire que j'avais beaucoup de temps de peinture et d'histoire de l'art qui m'était enseigné. Donc ça, c'était au moment où on a entre 16 ans et 18 ans, ou 15 ans et 18 ans plutôt. Et puis ensuite, j'ai décidé, donc, comme je vous l'ai dit, d'aller à l'école des Beaux-Arts pour en faire mon métier. Alors, c'est un drôle de métier. Ce qui est super, c'est qu'on est complètement autonome et je peux faire ce que je veux. Alors, en même temps, la liberté d'être artiste, c'est pas si simple. Et il faut avoir une rigueur et un cadre de travail et se l'imposer. Sinon, on pourrait ne rien faire toute la journée dans l'atelier. Mais comme j'ai un désir très fort de vouloir faire des choses, parce que j'adore découvrir ce qui va advenir quand je travaille, il y a comme une surprise à chaque fois qu'un dessin ou une sculpture apparaît. Et donc c'est un peu ce qui me motive à travailler tous les jours dans mon atelier.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
C'est vraiment la question de l'autonomie et le fait d'être libre et de ne pas travailler pour quelqu'un. En fait, je travaille juste pour moi. Et évidemment, je donne à voir ensuite à des spectateurs les choses que je fais. Après, il faut savoir aussi que ce n'est pas si évident de vivre de ça, parce qu'on ne vend pas toujours les sculptures, on ne vend pas toujours les dessins qu'on fait. Donc ça prend beaucoup de temps avant que ça soit, que ça intéresse les gens et que ce soit vendu.
À quel âge êtes-vous devenu artiste et dans quel but ?
J'avais 24 ans. Et dans quel but ? Alors oui, bah ça c'est un peu à quoi ça sert l'art. C'est assez vaste. Ça sert, je pense, à aiguiser nos perceptions et à essayer de prendre en compte aussi des altérités, c'est-à-dire ce qu'est l'autre, comment une forme qui arrive à nous, qu'on ne connaît pas. Quand par exemple vous avez vu les sculptures que je montre dans l'exposition, peut-être certaines vous ont surprise et du coup ça vous a fait réfléchir. Ça vous a demandé à quoi ça vous... Enfin, ça vous a certainement... Vous vous êtes demandé à quoi ça vous faisait penser, pourquoi vous n'aimiez pas cette couleur-là ou pourquoi vous aimiez à l'inverse. Est-ce que c'était drôle ? Est-ce que... Donc ça provoque, a priori, l'art provoque une réaction à laquelle ça dépend des individus.
Avez-vous des liens avec d'autres artistes ?
Oui, bien sûr, j'ai plein de... d'amis artistes et je parle beaucoup avec ses amis et j'ai des liens moins formels, c'est-à-dire ce sont pas forcément des amis dans la vraie vie, mais c'est des amis de pensée, c'est des gens, des artistes dont je regarde beaucoup le travail, que je ne connais pas dans la vraie vie, mais qui sont des amis au sens où leur travail me fait réfléchir, me fait avancer, me donne des idées pour des gestes, m'inspire, quoi.
Que faites-vous d'autre dans la vie ? Avez-vous un autre métier ?
J'enseigne à l'École nationale des arts décoratifs, qui est une école d'art à Paris. Et avant ça, j'ai enseigné à l'École des Beaux-Arts de Lyon, et avant ça, à la Villa Arson, qui est l'École des Beaux-Arts de Nice. Et bah voilà, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je fais ça 2 jours par semaine. Et les 3 autres jours, je suis dans mon atelier. Et le week-end, je suis un peu dans mon atelier, mais j'ai aussi un petit garçon, donc je m'en occupe aussi.
D'où vous vient votre inspiration ?
Alors l'inspiration, elle me vient, comme je disais, de mes lectures, de l'art, donc des autres artistes, et aussi des gens que je regarde. Des gens dans la rue, des gens dans le monde, quoi. La, 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 la.
Non, c'est air là. Vous pouvez pas savoir ce que ça évoque pour moi. C'est air, vous entendez là?
Non, mais j'entends rien.
Ouais, vous pouvez pas comprendre ça parce que cet air là, moi c'est toute ma vie. Toute ma vie. Ça me. Quand j'entends ça, ça me. Un jour, vous savez, j'étais chez moi. Ça jouait ça. Elle était à côté de moi, comme ça, c'était une femme. Une magnifique belle, ça, elle avait. Je lui ai pris la main, comme ça. Et puis je la caressais, comme ça, au-dessus, n'est-ce pas? Au-dessus, je... comme ça. J'avais dit, est-ce que vous m'aimez? Et elle m'avait dit non. Elle m'avait dit non. J'ai... Alors j'ai acheté le disque de ça, parce que cette musique, ça m'avait. C'est de l'hystérie collective à moi tout seul, n'est-ce pas? Et un jour, j'étais chez moi, j'avais mis le disque sur le pick-up, comme ça. Ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait dans ma tête. Ça chavirait. Elle était à côté de moi, c'était pas la même, c'était une autre. Ça, c'était... Ça, elle était pas aussi belle que la première. Elle pas... Enfin, j'avais pris la main. Puis je la caressais par en dessous, pour changer un peu, quoi. Je voulais pas me faire toujours les mêmes choses. J'avais dit, est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait dit, ouais, ouais. Moi, je l'aimais pas, alors j'ai cassé le disque, j'ai dit, hey, Un jour, j'ouvre la radio, ça jouait ça. Et pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Elle était à côté de moi, elle était de l'autre côté, parce que j'étais chez elle. C'était une troisième. J'avais pris la main. Et puis je la caressais dans les deux sens parce que je voulais en finir. Quand même, ça commençait un petit peu à m'agacer. J'avais dit, est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait dit, oui, monsieur. J'ai dit, est-ce que vous voulez m'accorder votre main? Elle me dit, ça fait 10 minutes qu'elle est dans la vôtre. J'ai dit, oui, tiens, c'est vrai. J'ai dit, la la la. La la, alors je garde. La la la, 10 ans. La la la, 10 ans, 10 ans. C'est terre, je peux plus le supporter. Je peux plus le supporter. Vous entendez? Vous entendez? Je peux plus le supporter, cet air. Vous entendez?
Non.
Cet air, là, que vous entendez. Vous l'entendez pas?
Ah non, non.
Dites que je suis fou. Non mais dites tout de suite que je suis fou. Dites, j'aimerais vous entendre dire, vous êtes fou. Dites, vous êtes fou, c'est tout.
Vous êtes fou.
Eh bien, je préfère. J'aime mieux ça.
L'artiste française Sarah Trix, née en 1980, imagine une exposition avec les œuvres de 29 artistes en dialogue avec les productions qu'elle a réalisées spécialement pour le Crédac.
Le fil conducteur de son exposition est le corps semblable à une boîte contenant nos pensées, nos mouvements, nos envies, notre langage.
Ici, le corps apparaît aussi sous forme de sacs, de petits cartons, de vases et d'un buffet.
Que peut-il y avoir à l'intérieur? Sarah Trix développe un goût pour le mystère, l'enfance, les jeux, les animaux et les mots.
Elle utilise souvent des techniques et des matériaux très modestes proches de ceux des artistes d'art brut, dont quelques œuvres sont présentes dans son exposition.
Ces artistes n'ont pas fait d'école d'art et se sentent libres de créer.
Lors de votre exposition au Crédac, pourquoi avez-vous choisi ce titre? J'aime le rose pâle et les femmes ingrates.
Alors déjà, je voudrais tous vous féliciter parce que les deux fois où le titre a été dit, vous avez très bien fait la liaison, ça j'aime beaucoup, les femmes ingrates. Et alors pourquoi ce titre? D'abord le rose pâle, tout simplement, j'aime beaucoup cette couleur. Vous savez, souvent on dit un peu bêtement, le rose c'est pour les filles et c'est pas pour les garçons. Bon, moi je trouve ça un peu débile de dire ça. Et donc j'avais envie quand même de dire que cette couleur pouvait être centrale comme ça dans, dans les esprits sans que ce soit forcément lié à un genre. Et donc ça, il y avait une première chose comme ça. Puis le pâle, ça fait penser à la couleur des œufs. Vous savez, les œufs de poule, c'est un petit peu rose, beige, enfin voilà. Il y a tout un camaïeu de rose pâle dans les œufs de poule, sur les œufs de poule, sur les coquilles. Et ensuite, les femmes ingrates, alors peut-être Mathieu vous en a parlé, c'est lié à un certain nombre d'autrices, c'est-à-dire les autrices, c'est les femmes qui écrivent, c'est pas des auteurs, c'est des autrices, que j'ai lues, qui sont des femmes très importantes pour moi, et qui ont dit, en fait, à un moment donné, par le biais de leurs livres, des choses qui ne sont pas si simples à dire à la société, en fait. Des choses qui sont, on va dire, anticonformistes ou un petit peu singulières, qui ont défendu leur point de vue. Et pour ça, à cause de ça, des fois, elles ont été perçues comme étant des femmes ingrates, c'est-à-dire des femmes pas très sympathiques, qui ont osé dire des choses et qui, pour ça, ont pris des risques. C'était une façon de leur rendre hommage aussi à ces femmes autrices qui ont pris des risques.
Comment avez-vous eu l'idée de faire cette exposition ?
Quand je travaille dans mon atelier, je pense beaucoup à différentes œuvres que j'ai pu voir, ou que j'ai pu voir en vrai, ou que j'ai pu voir dans les livres, et je pense à beaucoup, beaucoup d'artistes. Et donc, je ne travaille jamais sans penser à d'autres artistes, puisque, quelque part, je leur réponds, en fait, en faisant ce que je fais, je réponds à certains d'entre eux. Et donc, j'ai voulu montrer, avec cette exposition, un certain nombre de gens avec qui j'entretiens un dialogue. Alors, bien sûr, c'est pas forcément des gens que je connais, mais j'entretiens un dialogue formel.
Qu'entendez-vous par dialogue formel ?
Chaque œuvre donne à voir une forme, quelle qu'elle soit. C'est comme si on mettait un chapeau à côté d'un poisson rouge, vous voyez ? Qu'est-ce que ça crée ? Qu'est-ce que ça évoque comme pensée ? Qu'est-ce que ça génère comme... est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est pas drôle ? Etc. Ben, en fait, dans les expositions, c'est ce que je fais en prenant et en décidant de montrer une sculpture à côté d'une autre qui n'est pas forcément du même auteur ou du même artiste. Et ça va créer comme un dialogue de forme. C'est comme si on mettait des mots les uns à côté des autres et puis à la fin, ça fait une phrase. Et... ça fait une phrase qui donne un sens, ouais, qui a un sens. Mais ce sens-là, il est différent selon les regardeurs, selon les spectateurs.
Dans la mer, des animaux bourgeonnent, les végétaux pondent les œufs, l'énergie les vagues reste à capter. Quelle ivresse ! Il existe des peintres du monde aquatique qui posent leurs chevalets au fond de la mer, au fond de la mer. Un battement de palme, un coup de rein, on se meut dans la mer, comme on vole dans les rêves. On se meut dans la mer, comme on vole dans les rêves.
Pourquoi avoir fabriqué des poupées sans tête ?
Alors, je me permets juste de rectifier, ce ne sont pas des poupées, ce sont des marionnettes, parce qu'elles ont des fils. Et qu'elles ont des croix, vous avez vu, elles sont accrochées par une croix, et en fait, on peut les faire bouger. Il se trouve que j'ai décidé de ne pas les faire bouger, mais elles fonctionnent comme des marionnettes à fil. Alors, je voulais leur mettre une tête, mais j'ai jamais, jamais réussi à leur mettre une tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une tête et que j'essayais de leur mettre, c'était affreux, ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai décidé qu'elles n'auraient pas de tête, et que pour autant, on ferait comme si... Enfin, j'avais l'impression que le cou, comme il est assez important, le cou, vous vous en souvenez ? Le petit col comme ça des costumes forme un cou qui évoque la tête. Et je pense que notre esprit peut... Notre regard peut pallier au manque de tête. C'est-à-dire qu'on peut, tout de suite... Enfin, je trouve qu'on oublie assez vite qu'elles n'ont pas de tête. Alors, c'est mon impression. Peut-être que vous n'avez pas eu cette impression. Mais moi, ça ne me dérangeait pas de... Je trouve qu'on peut imaginer qu'elles ont quand même un regard et qu'elles sont au courant de ce qui s'est passé ou de ce qu'il se passe dans l'exposition. En plus, vous savez, vous souvenez, deux d'entre elles ont une petite pochette dans leur dos qui contient certaines reproductions faites au crayon de couleur des œuvres qui sont dans l'exposition. Donc elles sont témoins de cette exposition et de ce projet.
Pourquoi avez-vous installé une porte sur la tête du buste de la sculpture en bois ?
Moi, j'ai toujours très envie de savoir ce qui se passe dans le cerveau de chacun et de chacune. Et j'ai pu mettre ce que je voulais dans le cerveau de cette sculpture.
Nous, on avait pensé que, il y avait son esprit ou son imagination à l'intérieur de la sculpture en bois.
Allez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?
Et non. La sculpture en bois, elle s'appelle Elle. Le titre, c'est Elle.
Dans votre exposition, nous avons vu deux troncs d'arbres l'un contre l'autre. Pourquoi les avez-vous installés ainsi ?
Ça s'appelle La 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 Love You et c'est une sculpture de Stéphanie Charpin, qui donc est une autre artiste, c'est pas moi qui l'ai faite. Et c'est elle qui a décidé que c'était une sculpture avec ces deux troncs, effectivement. Il est dit dans la légende qu'il y a des troncs de palmiers dedans, à l'intérieur du ciment, mais on les voit pas, les troncs. Mais ça, on voit l'extérieur. Mais c'est elle qui a décidé de les mettre l'un contre l'autre.
Il y a aussi un dessin qui m'intrigue. C'est le dessin d'un alphabet en désordre. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Cet alphabet, c'est le dessin de Alfred Lützinger, qui est un artiste brut, donc. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce dessin, c'est que si on s'attarde, si on prend le temps de le regarder correctement, justement, on s'aperçoit de ce désordre. Et donc, on passe un peu plus de temps à regarder ce dessin que s'il était dans l'ordre. Et en plus, le « i », vous avez vu, moi, il m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que le « i » est mal placé, effectivement, dans l'alphabet. Et le « i », il m'a fait penser au « i » en anglais. Pour dire « je », on dit « i ». Et ça me plaisait beaucoup.
Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là.
Merci à vous toutes et tous pour vos questions et votre attention, ça m'a beaucoup touchée. Bravo.
Chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à aller voir l'exposition au Crédac.
J'aime le rose pâle et les femmes ingrates.
Jusqu'au 15 décembre 2019 à Ivry-sur-Seine.
À bientôt.